Voilà, comme ça. Oui, ça va. Alors, la caméra passe.
What is this, Connor? Easy, easy, old man. She's not hurt?
No,
no. Not wounded, sir.
Che fai, gradisci?
Ma passato forte, che fai?
It's been a long time.
Yes, ma'am.
Mi conoscete?
Filumena.
Filumena.
Proprio non mi ricordate.
Che non si fa chiedisci? Come fa chiedisci?
Bonjour à toutes et à tous les cinéphiles du vendredi et bienvenue dans Cinémascope, le magazine qui ausculte l'actualité du cinéma en Sud-Ardèche avec fougue. Aujourd'hui, le mal, l'ambition, l'illusion, l'identité complexe et multiple avec Orson Welles à l'occasion de la rétrospective que le cinéma Le Regain du Teil lui consacre en 9 films. Un peu moins de subtilité et d'âpreté avec Les Enfants de la Résistance. Et puis, on terminera en beauté, peut-être, en beauté fragile avec Le Chant des Forêts. Tout cela avec mes compagnons de route. Aujourd'hui, c'est René. Bonjour, René.
Bonjour à tous.
Et Olivier. Salut, Olivier.
Bonjour tout le monde. Bonjour, Sylvain.
Bonjour.
Et bonjour, Sylvain. Et puis, avec Mathieu qui a enregistré sa chronique par téléphone là tout à l'heure, il y a 2 heures. Et on sera également au téléphone avec Henri-Pierre Garin, directeur du cinéma du Teil, puisque, voilà, ils mettent à l'honneur Orson Welles. Allez, on commence tout de suite avec ce que nous disait Mathieu de Les Enfants de la Résistance. On est avec Mathieu Renoir du foyer à Rosières. Salut Mathieu.
Oui, bonjour Sophie.
Donc toi, tu viens parler des Enfants de la Résistance, le dernier film de Christophe Baratier, qu'on avait connu avec Les Choristes en 2003, aussi avec La Nouvelle Guerre des Boutons en 2011. Ici, il adapte la BD belge du même nom de Vincent Dugommier et Benoît Herse. C'est toute une série. Là, je pense qu'il circonscrit son film sur les 2 premiers tomes. On retrouve Artus, Gérard Jugnot, Pierre Deladonchamp là-dedans. Il y avait tout pour lui, un peu l'histoire avec un grand tâche, singulièrement l'occupation, l'enfance, l'aventure, les valeurs. Alors comment y sentir de ce film? Qu'est-ce que tu en as pensé?
Alors moi ce que je retiens déjà de ce film, c'est que c'est le retour de Christophe Baratier, que moi j'avais plus vu depuis un certain temps, et c'est vrai qu'on se dit qu'avec un casting comme il a, avec Artus et Gérard Jugnot notamment, mais aussi 3 nouveaux enfants dont c'est la première expérience au cinéma, on se dit, comme tu viens de le dire, qu'il a tout pour réussir un bon film. Malheureusement, il y a quelques petits couacs et ça se voit malheureusement un petit peu que les 3 enfants, c'est la première expérience au cinéma, mais je vais développer tout ça.
D'accord. Tu nous racontes juste en 2 mots l'histoire ?
Tout à fait. En gros, c'est un film qui se passe pendant l'occupation allemande de la Seconde Guerre mondiale, dans un petit village de France bien placé sur un axe fluvial pour l'Allemagne. Et du coup, il y a 3 enfants dans ce village qui se lancent dans une aventure secrète pour résister à leur manière aux nazis grâce à quelques sabotages et messages cachés.
Ok, alors c'est le moment de développer.
Sur le papier, on ne sait pas trop si on va avoir droit à un film de guerre, un film pour les enfants, un film d'aventure. On se demande si ça va être plutôt profond, dur, ou si ça va rester assez superficiel. On ne sait pas trop à quoi s'attendre au départ. Et c'est vrai que la mise en place au début du film me paraît un peu longuette. C'est le temps de présenter les différentes familles qui n'ont pas tous les mêmes points de vue, bien entendu, vis-à-vis des Allemands. Il y en a qui sont plutôt pour plus de rigueur, d'autres qui sont forcément très contre puisqu'ils ont participé à la guerre précédente de 14. Les enfants qui, eux, bien entendu, suivent la vie de leurs parents. Hein, voilà. Donc c'est un peu long au départ, la mise en place, à mon goût. Moi, je pense que le film débute réellement lorsque les nouveaux jeunes sont appelés à partir pour la Seconde Guerre, donc ils sont déracinés de ce village. Et qu'en retour, il y a une jeune fille qui arrive dans l'autre sens, qui, elle, a perdu ses parents, puisqu'elle a été un peu déportée de sa ville, qui est en Belgique. Et c'est là où la mécanique du film commence vraiment à prendre plus d'ampleur, et finalement, c'est les enfants qui vont faire avancer le scénario. J'ai trouvé que les adultes, finalement, sont là comme des jalons, des points clés qui servent à matérialiser l'histoire, mais c'est les enfants qui la font avancer à travers leur aventure.
Mais justement, tu te posais la question de savoir pour qui était ce film. C'est peut-être justement précisément pour les enfants et à hauteur d'enfants sans...
Eh ben, exactement. C'est ce que je retiens sur le fond, c'est que malgré quelques moments qui sont quand même assez intenses et profonds, bah, le film reste selon moi un peu superficiel, un peu à la hauteur des enfants. Donc peut-être que du coup je perds un peu ce regard d'enfant aujourd'hui, mais en tout cas je l'ai senti un poil trop superficiel, et peut-être que c'est dû aussi au jeu d'acteur des trois enfants qui me paraît un peu fragile. Dans le sens où les dialogues me paraissent un peu posés, voilà, dans le sens comme si c'était un peu récité, mais c'est peut-être encore une fois que je n'ai pas ce regard d'enfant qui me fait dire ça. J'ai quand même apprécié la fraîcheur quand même de ces enfants qui découvrent un premier rôle au cinéma, et j'ai pas mal apprécié aussi le rôle d'Artus qui pour le coup a un rôle assez dur, plus dans l'émotion. Ça fait du bien de le voir un peu dans ce type de rôle là, pas pour faire rire, ça fait du bien. À noter quand même que le rôle de Gérard Jugnot est assez futile et presque inutile, j'exagère, mais un peu futile quand même. C'est un peu pas grand chose. Mais bon, dans tous les cas, pour moi, le film, c'est un beau film d'aventure familiale pour les enfants. On se laisse embarquer quand même dans cette histoire qui a touché finalement tout le monde de cette France des années 40. Mais voilà, pour moi j'ai un petit manque de profondeur. Voilà, si je le compare aux Choristes, en fait c'est toujours pareil, moi dans ma tête j'ai vraiment les Choristes où j'étais justement ce jeune enfant à l'époque des Choristes, et je trouve que les Choristes étaient mieux ficelés, plus solides, et avec un jeu d'acteur des enfants qui était pour moi plus profond. Mais voilà, c'est toute la comparaison, elle est peut-être compliquée à faire vu qu'il y a 20 ans peut-être qui s'est passé entre les deux films. Voilà, ce que je peux en dire, c'est qu'on passe quand même un bon moment de cinéma. Je m'attendais plus à avoir une seconde lecture, notamment pour les adultes qui vont aussi voir ce film. Mais ça reste un film qui est bon enfant, qui termine sur une note dans l'émotion. Donc voilà, je pense qu'il y aurait eu deux, trois petites choses qui auraient pu arriver un peu moins comme un cheveu sur la soupe. Mais en tout cas, on passe quand même un bon moment de cinéma. Et c'est un film à voir, c'est très sympa. Il faut y aller en famille.
Voilà, une comédie familiale. Et ils l'ont bien senti, les producteurs, puisque évidemment, c'est sorti pendant les vacances scolaires. Et depuis le 11 février, il y a déjà plus de 400 000 entrées. Donc ça fonctionne plutôt bien. Il est à voir à Rosières, à Aubenas, à Ruyon, c'est Privas, et la semaine prochaine, il sera à Auteuil, au Vence et à Valls. Merci Mathieu.
Merci Sophie.
Un film bon enfant, nous disait-il. Un film bon enfant, comme dans les années 80, en fait, où tous les Français étaient résistants, c'était bien connu, avaient été résistants.
Moi, je suis un peu surpris du fait qu'on ait encore recours à cet arrière-fond de l'occupation, etc., pour livrer une comédie, comme l'explique très très bien Mathieu, une comédie familiale, il n'y a rien à dire. Mais pourquoi utiliser ce fond-là, quitte effectivement à poursuivre l'écriture d'un roman national peut-être pas très exact historiquement, quoi. Et donc Jugnot qui reprend du service après Papy fait de la résistance, enfin je veux dire, ça fait bizarre, ce manque d'imagination.
Bah, ça existe. Bon, un autre qui a pas mal d'imagination, et justement pendant que les enfants de la résistance sévissent aux États-Unis mais dans la vraie vie, Orson Welles tournait Citizen Kane, c'était en 41, et La Splendeur des Amberson. On est au téléphone avec Henri Pierre. Bonjour Henri Pierre.
Bonjour Sophie, bonjour à tous.
Bonjour Henri Pierre.
Alors, le cinéma Le Regain du Teil propose une rétrospective de 9 films d'Orson Welles, là, qui vient de débuter. Les premiers, je crois que ça commence avec Citizen Kane, La Splendeur des Amberson, c'est ça?
Oui, tout à fait. C'était hier soir la première séance des Amberson, tout à fait.
Alors, pourquoi déjà avoir proposé cette rétrospective?
Alors, la rétrospective, en fait, c'est un hommage qui avait été fait à Orson Welles à la Cinémathèque française entre octobre dernier et janvier de cette année. Et bon, c'est quand même un réalisateur qui, à mon sens, est quelqu'un qui compte dans le cinéma, j'allais dire américain, mais international.
Oui.
puisque effectivement Citizen Kane, il l'a réalisé, il était très jeune, hein, il avait 25 ans, donc c'était, je crois, son premier. Enfin, je suis pas sûr, là, je suis pas spécialiste.
Mais... Oui.
Voilà, son... et il est mort assez jeune aussi, à 70 ans, hein, en 85, si je dis pas de bêtises. Et Citizen Kane, pour un premier film, était quand même, et à mon avis, et restera encore longtemps une référence cinématographique.
Ouais. Mais c'est ce qu'on on disait, Scorsese disait, il y a tout le cinéma dans ce film Citizen Kane. Effectivement, donc cinéaste bien sûr, mais avant ça, et c'est un petit clin d'œil pour nous, homme de radio. Bien sûr, hein, j'allais dire on se souvient, mais non, on ne se souvient pas. C'était en 1938 lorsqu'il a fait l'adaptation. Bah, alors, je vais te laisser en parler. Après, l'adaptation radio de La Guerre des Mondes. Homme de théâtre aussi, passionné de Shakespeare, qu'il accompagnait toute sa vie. Un cinéaste bien sûr génial. Ça va être l'objet de ce moment. Et puis illusionniste. Et ça, je trouve que c'est un illusionniste. Et d'ailleurs, j'ai lu qu'il avait été initié par Harry Houdini lui-même lorsqu'il avait 10 ans, le petit Orson Welles. Et on sent que voilà, ça a une incidence. On va parler de quelques films. Alors, Olivier voudrait parler de Citizen Kane, René aussi et de La Splendeur des Amberson. Et toi, Henri-Pierre, peut-être un petit zoom sur Othello.
Oui.
On commence, si tu veux bien, par le début, par Citizen Kane.
Allons-y.
Ah, d'accord. Oui.
Olivier, oui, je te regarde.
Oui, Citizen alors, Kane. Citizen Kane, donc, je l'ai revu hier matin. J'avais dû le voir déjà plusieurs fois et j'avais vu à chaque fois le film culte, en quelque sorte, l'objet historique de l'histoire du cinéma, etc. Et je crois que j'ai eu la chance hier de le voir comme un film, comme un autre a priori. C'est-à-dire, t'es voir ce film. Et j'ai vu à quel point il était réellement important, en quelque sorte. Et effectivement, j'ai peut-être trois points. Orson Welles hanté par le théâtre Shakespeare. Il fait jouer dans Citizen Kane la troupe du théâtre Mercury, qui est qui est sa troupe de théâtre, un théâtre créé à New York en 1937. Donc voilà, et on a effectivement ce jeu presque un jeu d'acteur anglais, hein, un jeu très très précis, très très profond. Le deuxième point, je dirais, c'est effectivement l'homme de radio. Il a, comme tu le disais, fait une dramatique sur la guerre des mondes, où il a mimé, en quelque sorte, c'est un illusionniste, effectivement, il a mimé, effectivement, l'arrivée des extraterrestres sur la Terre. Alors, on a beaucoup dit que ça avait fait scandale, c'est pas tout à fait aussi vrai qu'on ne l'a dit. Ceci dit, je crois que Orson Welles a pris conscience, à cette occasion-là, de la puissance des médias. Et en particulier, bizarrement, l'opposition qu'il a suscitée dans la presse écrite, à cause de sa puissance, lui, radiophonique, lui a fait prendre conscience de la puissance des médias, et c'est ce qu'on retrouve dans Citizen Kane, qui est l'histoire d'un producteur de médias presse, quoi, hein, l'inquireur, voilà.
La puissance des médias, la puissance des médias et du son. D'ailleurs, il disait même dans une pièce de théâtre, quelquefois, je dirige le dos tourné parce que ce qui m'intéresse, c'est le rythme et le rythme du son. Et tout est dans le son.
Et il a d'ailleurs réalisé avec sa troupe des enregistrements de pièces de Shakespeare à destination des écoles. Donc, effectivement, Shakespeare le hante pendant toute sa vie. Hein. Et puis, donc, il y a effectivement. Premier long métrage, il avait déjà fait un cours avant, et il utilise les procédés cinématographiques connus du cinéma expressionniste allemand, entre autres, mais il innove. Il innove avec un montage assez court, avec des plans séquences aussi assez longs, et tout ça est entremêlé. Donc, il développe son langage cinématographique propre. Alors, à propos de Citizen Kane, je voulais juste dire, je vais essayer quand même de me dépêcher, mais juste dire qu'on avait quand même affaire à un drame shakespearien. Dans les drames shakespeariens, on a deux aspects. On a l'histoire, hein, l'histoire avec un grand H, et puis les petites intrigue des grands hommes de l'histoire. Et puis, on a aussi la conformation psychologique des personnages. Hein, Hamlet, Richard III, Othello, c'est des complexes. Et alors, c'est l'histoire et la conformation psychologique qui joue dans les drames shakespeariens le rôle du destin dans les tragédies antiques. Et je crois que Orson Welles parvient à importer ça dans le cinéma. C'est-à-dire, il nous met dans un drame presque tragique, cinématographique, où, effectivement, le fatum de Citizen Kane, c'est essentiellement le fait d'avoir été tôt privé de sa mère, comme Orson Welles lui-même d'ailleurs, et d'être en perpétuelle recherche, demande d'amour de manière obsessionnelle. Voilà. Et puis, ça, dans le milieu historique du capitalisme triomphant, mais aussi du capitalisme qui connaît ses crises. Donc, c'est ça le décor historique. Oui. Pour ce personnage particulier.
C'est juste, tu n'as pas raconté l'histoire en un mot, c'est l'ascension.
C'est l'ascension irrésistible jusqu'à des sommets déments d'un patron de presse qui finit dans son palais aux allures de Taj Mahal et de je ne sais pas quoi. Voilà.
Ça
commence par sa mort, effectivement, il meurt en laissant échapper une boule à neige et en prononçant le mot « rosebud », bouton de rose, et tout le film est la recherche sur le sens de cette sorte d'aveu. Et effectivement, on se rend compte qu'il est un chercheur obsessionnel d'amour, et pathologique parce que finalement, il finit par faire du mal à ceux qu'il aime et à ceux dont il attend de l'amour. Si bien que cette contradiction-là montre bien qu'on est dans une situation pathologique et une sorte de fatum qui est lié, de destin, quoi, qui est lié à sa conformation psychologique. Mais c'est très, très bien montré.
René, est-ce que tu veux ajouter quelque chose là-dessus
Oui,
après, on entendra Henri Pierre.
Voilà, rapidement, moi c'est le mot qui vient à l'esprit quand on voit ce film, c'est surdimensionné. Olivier a parlé de Shakespeare, c'est ça. Ça va des décors, ce palais où réside Kane, gigantesque, qui crée un sentiment d'angoisse. Ça rappelle un tombeau pharaonique. Il y a une ambiance mortifère là-dedans. Surdimension aussi du personnage, on vient de le dire. Incroyablement riche et manipulateur, un personnage qui fait la pluie et le beau temps autour de lui. Surdimension aussi de Wells lui-même, qui était autant un personnage qu'une personne. La plaisanterie que Kane me rappeler les anglo-saxons à propos de Wells, c'est écrit par Wells, imaginé par Wells, digéré par Wells, dirigé par Wells, interprété par Wells. Il est partout. En même temps, un film politique, bien sûr, une satire du capitalisme à l'américaine où tout semble pouvoir s'acheter, où tout est permis pour faire chuter son adversaire, en particulier dans le cadre des campagnes électorales. Mais surtout, ce qu'il faut voir moi, dans ce film, et c'est pour ça qu'on continue à s'intéresser à Wells, c'est l'aspect formel du film. Ouais. Il est d'une incroyable créativité, depuis les décors qui sont inimaginables, en passant par le montage, le rôle du noir et blanc, les mouvements de caméra, la mise en scène est elle-même est d'une originalité parfaite. C'est quand même ça qui... Ce film est une école de cinéma. Tous les metteurs en scène ont vu ce film et se sont dit « Ah oui, c'est ce qu'il faudrait arriver à faire.
» Voilà. Oui, c'est ce que disait Scorsese. Et apparemment, Wells a dit plus tard s'être inspiré pour la réalisation du roman d'un tricheur de Sacha Guitry, notamment sur cette caméra subjective, la voix off, des fondus, des flashbacks.
C'est curieux parce que ça, le cinéma de Sacha Guitry qui a la réputation de sentir la naphtaline,
ouais.
Mais en fait si on les regarde de près, c'est loin d'être le cas. C'est des gens pleins d'imagination.
Henri Pierre, est-ce que tu veux ajouter quelque chose sur Citizen Kane et après si tu veux parler d'Othello?
Alors je crois que sur Citizen Kane tout a été dit par Olivier et René, et moi j'ai juste ajouté qu'il faut retourner le voir parce que vous nous avez tous les deux donné envie de le voir ou de le revoir, et je pense que tout est dit sur ce magnifique film
et dans une salle de cinéma.
Et dans une salle de cinéma, oui, tout à fait, raison de plus. Mmh. Et d'ailleurs, le roman d'un tricheur de Sacha Guitry, et je pense aussi un film au passage qui mériterait d'être vu et revu pour plein de choses différentes dont on parlera une prochaine fois, j'imagine.
Et j'insiste, dans une salle de cinéma.
Ah oui, complètement, dans une salle de cinéma, je suis complètement d'accord.
Et ben voilà, peut-être vous allez le reprojeter.
C'est une possibilité.
Mmh. Alors,
du coup, si je peux parler d'Othello, effectivement, ouais, comme sûr. Tu le suggérais, donc... C'est un film qui fait un peu exception dans la carrière d'Orson Welles, hein, puisque, comme le disaient mes collègues, Orson Welles faisait beaucoup de longs plans séquences, un montage rapide et tout ça. Othello est un peu le contraire, en fait. Il a fait un nombre de plans inimaginables, très morcelé, il y a beaucoup de plans différents. Alors, il a mis 4 ans pour le monter, peut-être c'est lié aussi à cette raison. Hein. Changement de producteur, changement des acteurs et des actrices 3 ou 4 fois. Ça devait se tourner en France avec d'ailleurs Cécile Aubry qui a fait Belle et Sébastien pour ceux qui connaissent un peu, les plus anciens, j'allais dire, pas les plus jeunes,
oui.
Finalement. Et en fait, il a fini par trouver de l'argent, alors, en partie grâce à ses cachets d'acteurs des films qui tournaient en parallèle, et avec un nouveau producteur pour tourner le film en Italie, dans la région vénitienne, et au Maroc en partie. Parce que son nouveau producteur disait on va le faire là-bas puisque l'histoire se passe plutôt quand même à Venise, hein, c'est encore Shakespeare d'ailleurs, comme ça a été dit tout à l'heure, Macbeth, Othello, mais il est beaucoup inspiré du monde de Shakespeare. Mm-hmm. Orson Welles était fasciné, je crois, par Shakespeare et son univers. Mm-hmm. Et du coup, moi je voulais ajouter aussi sur ce film qui à l'époque m'avait marqué quand je l'avais vu au cinéma. C'est que c'est Orson Welles lui-même hein, qui joue le rôle du mort, donc tout maquillé, j'allais dire en personne de couleur, en noir, je ne sais pas si on peut le dire comme ça, à une époque, dans les années 40-50, où finalement des acteurs noirs ne jouaient pas beaucoup au cinéma, il n'y en a pas tant que ça, et même si on recherche, c'est sur les doigts d'une main qu'on peut les compter, en tout cas ceux qui avaient des premiers rôles. Et Orson Welles là-dessus était aussi, comme pour la technique, comme ça a été dit, je pense un peu précurseur par rapport à tout ça.
Mm-hmm. Othello, donc sorti
c'est bon
en
de
51.
Voir à quel point on est d'accord.
sorti en 51, il a mis, oui, tu disais, 4 ans, et j'entendais qu'il était toujours. En fait, il avait une conception un peu particulière. Ses films, il était toujours avec ses films, puisque, là, tu présentes au cinéma Le Regain d'Utheil 9 films d'Orson Welles, il en a sorti 12 ou 13. Et puis, on a une vingtaine d'inachevés, quelques-uns de perdus. Et en fait, tous ces films inachevés, il a voulu les faire, mais c'est pour des questions financières. Et en fait, il commençait des films, non pas qu'il ne voulait pas les continuer, mais il allait, comme tu le disais, jouer pour avoir de l'argent en tant qu'acteur, pour pouvoir remettre cet argent dans les films qu'il faisait. Et puis, il en avait plein, comme ça, en chantier. Voilà. Il était toujours toujours dedans. Et donc, les films, et c'est ce qui déroutait notamment les producteurs, les films pouvaient durer des années.
Sans arriver à la conclusion, souvent.
Mmh.
C'est triste.
Donc, Othello, qui est bien sûr à voir, qui est déjà à l'affiche, là, Auteuil ?
Non, c'est la semaine prochaine, je crois, ou la semaine d'après.
D'accord, parce que c'est une rétrospective qui dure combien de temps ?
Elle dure donc 5 semaines, on a 2 films par semaine. Donc cette semaine, la Splendeur d'Anderson et Citizen Kane. J'avais essayé de les faire dans l'ordre chronologique, mais on a été obligé de décaler sur la dernière semaine un film qui ne va ressortir, donc ça va être une ressortie nationale sur la dernière semaine qui est au mois de mars.
D'accord. Et tu viens de parler de la Splendeur d'Anderson. René, est-ce que tu veux en parler ?
Rapidement, parce que je viens juste de le revoir, ça faisait 20 ans que je ne l'avais pas vu. Pareil, alors la fin a été massacrée par les studios. C'est un peu, il y a un bouquin à écrire sur les conflits entre Welles et les studios qui ont saccagé ces films, parce que bon, pour eux, il fallait que ça finisse bien pour que ça se vende. Il ne faut pas oublier que le cinéma reste quand même quelque part un produit, en tout cas aux yeux de... aux yeux de certains producteurs. Et donc, ils ont massacré la fin. Ceci dit, on retrouve dans La Splendeur des Andersen, à partir d'un roman médiocre, un film quelque chose de transcendé par le talent, par le regard de Wells. Je ne vais pas m'étendre, mais je fais allusion à une dimension, par exemple, technique. Le rôle de la contre-plongée. La plupart sont filmés en contre-plongée. Alors, ça a un effet très particulier. La famille, en l'occurrence, Amberson, c'est l'histoire d'une famille qui a été riche et qui périclite, qui n'est pas dans le coup, qui représente le vieux capitalisme, alors qu'une autre famille, celle des Morgan, représente le capitalisme qui monte. Et donc, cette famille, les plans qui la concernent, chaque fois que c'est à l'intérieur, chez eux, de leur maison, là aussi, qui est un décor exceptionnel, avec le parti pris qu'ils tiennent de l'escalier dans ce film, pour montrer les gens, le rôle qu'ils jouent dans les conflits. Il y en a un qui monte, il y en a un qui descend. C'est prodigieux. Et je reviens à mon histoire des contre-plongées, parce que quand c'est filmé à l'intérieur, ça fait apparaître le plafond, ça écrase le plan et ça donne une impression d'enfermement, de prison, de mort quelque part. Ça fait tombeau.
C'est la chute de la maison Huchère de Pau. Quoi.
Oui, peut-être oui, ça a dû l'influencer. Et par contre, quand il filme la famille des Morgan, le père et sa fille, le père est ça se passe au début du siècle, du 20e siècle, donc la voiture, l'automobile est encore à son balbutiement, le père est un inventeur, il crée des automobiles, donc il représente l'avenir. Et là, on voit, je pense à une scène en particulier filmée en contre-plongée où le père est accompagné de sa fille et on voit apparaître le ciel, l'espace rentre dans le cadre, c'est l'avenir, c'est le succès, c'est tellement ingénieux. Mais pareil, on peut reprendre le rôle du travelling, le rôle du noir et blanc, le rôle de l'ombre pour filmer cette famille qui périclite. C'est tout simplement prodigieux, c'est du très grand cinéma, c'est du très très grand cinéma. Et en plus, ce qui est bien chez Wells, il prend pas vraiment parti. À un moment, le fils de la famille attaque Morgan, lui dit « Ouais, l'automobile, c'est une catastrophe, ça va détruire tout notre univers. » Et le père, il dit « Peut-être que dans 20 ans, oui, c'est ce qui va se passer, mais aujourd'hui, l'automobile, c'est l'avenir. » C'est tellement bien fait. Je suis très enthousiaste, comme nous le sommes tous. Enfin, ouais. C'est, quand on voit ça, on se dit à quel point 90% des films qu'on voit sont d'un point de vue formel, d'un manque de créativité. Ouais. C'est terrible, hein. C'est terrible de dire ça, mais voilà quoi.
Oui, la créativité, effectivement.
L'usage d'un langage complet, en fait. L'usage d'un langage complet.
Et qui n'hésite pas à se renouveler, oui, voilà. Ce que faisait Wells dans chacun de ses films.
Le langage, il se renouvelle quand tu l'utilises, tu vois ce que je veux dire. Mais je ne sais pas si c'est la faute des producteurs, des distributeurs, etc. On est dans un langage qui s'appauvrit, mais comme dans les médias, le langage s'appauvrit, devient excessif, souvent hyperbolique, etc., mais pauvre en qualité, je veux dire. Et malheureusement, il y a beaucoup de films dont on a l'impression qu'ils sont tournés pour les plateformes ou je sais pas quoi, qui usent et abusent de ce langage assez plat. Enfin,
stéréotypé,
oui, voilà. Alors que quand tu te prends Citizen Kane en pleine poire, effectivement, t'as l'impression d'ouvrir
un autre univers
ouais, voilà.
Eh bien, allez voir les films de d'Orson Welles, donc qui sont diffusés, oui, projetés au cinéma Le Regain d'Auteuil, donc à partir de maintenant et jusqu'à, tu disais, en 4-5 semaines là. Est-ce que tu veux ajouter quelque chose sur Orson Welles?
Moi, je crois que tout a été dit. Enfin, tout non, on pourrait en parler pendant des heures, hein, mais effectivement, encore une fois, c'est quelqu'un qui a marqué le cinéma et tous les réalisateurs aujourd'hui, les grands réalisateurs, s'en inspirent. Et ça mérite d'être vu dans une salle de cinéma avec un bon confort. Et ça ne vieillit pas, malgré que ce soit des films qui ont presque 80 ans pour certains.
C'est
quoi.
Ça, ouais.
Il y a des scènes très, très modernes. Ouais.
Citizen Kane, 1941, La Splendeur des Amberson, dont on a parlé, c'était en 1942, et Othello, c'est en 1951. Voilà. Peut-être as-tu vu le film dont René voudrait redire un mot, mais il nous reste du temps, Le Chant des Forêts de Vincent Munier.
Moi, j'ai beaucoup aimé ce film. Je voulais en parler parce qu'il est encore à l'affiche et j'aurais aimé encourager les gens à aller le voir, ceux qui ne l'ont pas encore fait, parce que je trouve qu'il a une approche très originale, très différente des programmes animaliers qu'on peut voir à la télévision auxquels on est habitué. Dans les programmes animaliers de la télé, la caméra est toujours très intrusive, elle traque les animaux jusque dans leur refuge, qu'il s'agisse de nids pour les oiseaux ou de terriers pour d'autres animaux. La caméra viole en quelque sorte l'intimité de ces sujets. Dans le champ des forêts, au contraire, rien de tel. La caméra se tient à distance. Je pense à ces plans où on voit les animaux sont filmés, mais entre la caméra et les animaux qui passent, on a un rideau d'arbres. On les devine en ombre chinoise, en quelque sorte. En plus, les protagonistes du film s'adonnent à de longues planques pour filmer, par exemple, cet oiseau disparu dont le nom
m'échappe. Le tétra.
Ouais. Ou à peu près, voilà. Il y a dans ce film du respect pour le monde animal. Et enfin, ce film est une aventure humaine. Et ça, c'est, je trouve, une des dimensions intéressantes du film. Trois personnes, personnages, sont impliquées. Le père le metteur en scène du film, Vincent Munier, mais aussi son père et son fils. Et on assiste à travers les témoignages du grand-père à un passage de témoin chez des gens à la fois passionnés par la nature et le monde animal en particulier, et par le respect avec lequel ce monde doit être abordé et protégé. Voilà, c'est un film honnête, je trouve, très agréable.
J'en avais parlé ici, à peu près dans les mêmes termes, quoique je n'avais pas aussi bien que toi insisté sur cette espèce de respect de la nature, tout à fait. Ce sur quoi j'avais un petit peu insisté, c'est sur le son. La prise de son est exceptionnelle, et quand on est en radio, évidemment, on est sensible. Et d'ailleurs, le preneur de son a été récompensé pour le son dans ce documentaire-là, qui est... j'ai entendu le preneur de son en parler. Il s'est constitué des bibliothèques de sons complètes qu'il utilise ensuite pour sonoriser les films, parce que ces sons-là pris de loin, etc., sont extrêmement difficiles à obtenir, surtout extrêmement difficiles à obtenir sans bruit parasite et sans et avec cet éloignement dont tu parles, etc. Donc effectivement, c'est un travail de sonorisation du film qui est presque la fabrique d'un objet sonore indépendant en parallèle de l'objet filmique.
C'est comme un collage.
Oui, un peu, oui. Mais comme le collage est très très bien fait et que c'est honnête intellectuellement, c'est vraiment magnifique. D'ailleurs, en parallèle, donc, cette aventure humaine, Munier, son père et son fils, eux aussi sont dans une relation de respect mutuel. Et j'ai entendu Munier parler de cette action qui a lieu en ce moment, paraît-il, d'aller attraper des tétras, je sais plus où, dans le nord, en Finlande ou en Norvège,
je crois.
Et puis de les descendre dans les Vosges où ils ne sont plus adaptés à cause en particulier du réchauffement de l'élévation des températures, quoi. Et donc Munier, dans un vrai respect animal, dit mais laissez les grands tétras en Norvège où ils peuvent encore vivre, et puis dans les Vosges on s'en passera, et puis on étudiera d'autres espèces qui sont effectivement elles remontées pour pouvoir donc on a un vrai respect qui est aux antipodes de l'idéologie animaliste ou écologiste, voilà.
Ouais, on a l'impression qu'on met les animaux en scène.
Oui, voilà, c'est ça. Voilà, exactement. Et donc là, effectivement, je pense que le succès remporté, plus d'un million d'entrées quand même, le succès remporté par ce documentaire est en partie lié à cette ambiance de respect et au fait que c'est en parallèle une aventure humaine.
Allez voir Le Chant des Forêts, puisqu'il est encore à l'affiche à Aubenas, et il sera aussi à l'affiche, je ne sais plus quel jour, mais là, dans les jours prochains, à Barjac, au Regain de Barjac. Henri-Pierre, merci. Je te redonne la parole si jamais tu veux ajouter une dernière chose. En tout cas, merci d'avoir été avec nous.
Bien, avec plaisir. Moi, j'ai juste complété que sur Le Chant des Forêts, effectivement, le Vosgien que je suis ne peut que confirmer ce que tu as. C'est qu'à un moment, il faut laisser des espèces venir. Et Vincent Munier, qui est photographe, à la base, a su très bien montrer ça. Et effectivement, on n'est pas dans un documentaire, voyeuriste, mais effectivement où vraiment on observe la nature dans le sens noble du terme, je pense. Donc allez voir effectivement Le Chant des Forêts, encore une fois sur grand écran, c'est ce qu'il y a de mieux.
Ah, oui. Salut camarade, je suis Lorrain, je tenais à le dire.
Et moi j'ai habité 3 ans à Épinal.
Et ben voilà, je suis sûr que toutes les auditrices auditeurs
ont pris note
et sont très intéressées.
Qu'on connaît les Vosges.
Oui, bien sûr. Merci.
C'est bien aussi, là.
Merci à toi. Ben, on se retrouve bientôt, j'espère, Henri-Pierre, pour parler.
Avec plaisir, oui, je vais essayer de pouvoir venir un peu plus souvent.
Pour parler d'autres films. Ben, merci à vous tous. Juste à noter, on en a parlé hier, le premier festival Les Châtaignes avec 5 films queer et féministes. C'est à partir de ce soir au Vence. Donc ce soir et tout ce week-end. Voilà, on se retrouve vendredi prochain pour un prochain Cinémascope. Merci Sylvain et merci à tous. Ciao.
Ciao, ciao.
Salut.
Voilà.